Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objets Trouvés du Centre de Sociologie des Organisations, le CSO. Nous vous proposons des récits de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales autour de leurs relations avec leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Lazega. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Samia.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po et sociologue au CSO. Alors, depuis un petit peu plus de 35 ans, vous vous intéressez à l'analyse de réseaux interpersonnels et interorganisationnels. Autrement dit, à la vie relationnelle qui s'établit en fait au sein des collectifs, on pourrait dire au fonctionnement de groupes d'individus et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Comment en êtes-vous venu à aborder cet objet ?
Au moment où je faisais ma thèse, quand j'étais jeune, j'avais collecté des données de réseau j'ai pas su les analyser pour la thèse. Mm-hmm. Du coup, après, j'ai essayé d'apprendre à analyser ce genre de données et à appliquer l'analyse de réseaux sociaux à une problématique qui m'intéressait particulièrement, c'était l'action collective horizontale entre associés rivaux. Mm-hmm. François Bourricot disait « associés rivaux condamnés à vivre ensemble ».
D'accord. Voilà. D'ailleurs, je précise que vous avez fait votre thèse avec Renaud Saint-Saulieu.
Avec Christian Lalive-Dépinay à Genève et Renaud Saint-Saulieu, ouais. A aimé mon sujet et m'a beaucoup aidé.
Ouais, qui est un des pères fondateurs avec Michel Crozier, qui est aussi celui qui a fondé le CSO. Alors, on va continuer. Votre approche sociologique vous amène à étudier vraiment plusieurs terrains. Et dans les années 80, vous partez aux États-Unis, à l'université de Yale et de Columbia, pour apprendre l'analyse de réseau et l'appliquer alors, dans un cas précis qui est le terrain d'un cabinet d'avocats d'affaires. Quelles sont les observations que vous avez pu faire ?
Bon, l'idée, c'était que ce genre d'organisation qui suit un modèle collégial plutôt qu'un modèle bureaucratique a besoin, pour fonctionner, disons qu'au cœur de son fonctionnement, on trouve les relations personnalisées entre les membres. Mm-hmm. Et que ces relations personnalisées construisent des infrastructures relationnelles et que sans ces infrastructures relationnelles, la délibération entre pairs, entre associés rivaux, n'aboutit pas et les décisions collectives ne peuvent pas se prendre. Et du coup, l'idée, c'était de prouver ça d'abord et ensuite de voir fonctionner les mécanismes collectifs qui permettent aux associés rivaux de gérer les dilemmes de leur coopération. Mmh. Parce que c'est en fait de la coopération entre concurrents. Et l'analyse de réseau permet d'identifier ces infrastructures relationnelles et de voir comment ces infrastructures facilitent des mécanismes collectifs, en particulier la solidarité, le contrôle, la régulation, l'apprentissage. Et ensemble, ces mécanismes collectifs constituent ce que j'ai appelé le capital social du collectif. C'est différent, oui, du capital relationnel des individus.
Oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez nous donner des exemples, justement, de mécanismes comme ça, collectifs, qui constituent ce capital social.
Oui, la solidarité.
Oui.
C'est-à-dire l'entraide, la cohésion par la réciprocité directe, indirecte. Ça renvoie à des concepts très anciens en anthropologie, en sociologie. Lévi-Strauss se distinguait l'échange simple, l'échange restreint, c'est-à-dire la réciprocité directe, l'échange généralisé, c'est-à-dire la réciprocité indirecte. Par exemple, Samia rend service à François, qui rend service à Paul. Mais est-ce que Paul va rendre service ou pas à Samia ? Est-ce, mm-hmm, que le cycle va se refermer ? C'est une grande question. La solidarité noble, je dirais, dans un collectif, c'est bien la question de la réciprocité indirecte. Et parce qu'elle ne fonctionne pas avec le calcul instrumental et du coup, la réciprocité indirecte a besoin de frontières du groupe, a besoin de normes, a besoin de, voilà, d'identité. Mm-hmm. Et c'est donc un phénomène qu'on observe. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, même chez les requins, il y a de la réciprocité indirecte, donc de la solidarité. Les requins, les avocats d'affaires, j'entends. Voilà.
Oui, oui.
Du coup, la solidarité, c'est un gros mécanisme collectif très complexe, en fait, parce que pour bien le comprendre, il faut comprendre ce qu'on appelle l'encastrement des échanges, ce qu'on appelle la multiplexité, c'est-à-dire les échanges de ressources différentes, le troc de ressources différentes l'une pour l'autre, et observer et mesurer et modéliser ce genre d'échanges, c'est l'affaire de l'analyse de réseaux sociaux. Ensuite, il y a un deuxième processus collectif, mécanisme collectif, c'est le contrôle social. L'analyse de réseau apporte des connaissances sur ce genre de processus social intéressantes, c'est-à-dire comment est-ce que ça marche. Ça marche par la surveillance, les rappels à l'ordre,
les sanctions,
le fait de faire pression et ensuite de sanctionner si les pressions ne marchent pas. Donc tout ça de manière directe ou indirecte. Et le problème, c'est qui sanctionne qui, qui endosse les coûts du contrôle. Et là, l'analyse de réseaux sociaux montre qu'il y a des mécanismes à la fois impersonnels et des mécanismes personnalisés qui se combinent et qui permettent d'en dire un peu plus sur, finalement, un phénomène social ultra à étudier, tout comme la solidarité, n'est-ce pas ? Et voilà, donc l'apport de l'analyse de réseaux sociaux a été intéressant dans ce domaine. Après le contrôle social, il y a aussi des mécanismes comme l'apprentissage collectif.
Oui.
Ça, c'est les réseaux de conseil, par exemple, sont très utiles pour comprendre comment l'apprentissage qui part de la base, hein, c'est pas l'apprentissage collectif qu'on peut construire avec les catalogues de formation envoyés par le DRH. Hein, c'est l'apprentissage tel que les gens eux-mêmes, à la base,
appréhendent leur fonction, leur poste.
Ou leur travail, leurs interdépendances, les connaissances qu'ils veulent partager, l'expérience qu'ils veulent partager. Et l'analyse de réseau montre que cet apprentissage collectif, il est quand même assez centralisé la plupart du temps, mais la centralisation, elle évolue, elle peut être cyclique, et elle peut être marquée par les différences de statut entre la personne qui demande conseil et la personne qui donne des conseils. Elle peut être marquée par le fait que quand on a du statut, socialement, il est difficile de demander conseil à quelqu'un qui est en dessous de soi en termes de statut et de réputation. Donc on a des mécanismes liés à l'homophilie qui permettent de contourner cette règle du statut. Donc c'est assez
une multiplicité,
complexe.
Oui, de cas.
De chemins pour arriver à obtenir de la connaissance, des conseils, de l'expérience. Parce que partager l'expérience, ce n'est pas du tout évident dans la vie sociale. Mm-hmm. En fait, ceux qui tiennent absolument à partager leur expérience s'aperçoivent que les autres ne s'y intéressent pas. Et ceux qui voudraient vraiment que d'autres partagent avec vous l'expérience, doivent trouver des moyens relationnels d'y parvenir. Voilà. Et pour finir, il y a un quatrième mécanisme collectif qui est très important, qui est lié à la politique en général, c'est-à-dire la construction collective de nouvelles institutions, l'institutionnalisation de nouvelles normes. C'est un mécanisme qu'on a appelé la régulation. Mmh. Et là, l'analyse de réseau permet d'observer, de mesurer, de modéliser les formes complexes d'équilibrage des pouvoirs dans un collectif, la manière dont des personnes qui sont actives à plusieurs niveaux à la fois, dans plusieurs réseaux à la fois, sont capables d'influence et de concentration du pouvoir, quelquefois dans les conflits d'intérêts, pour avoir un effet surpuissant sur, les, sur l'institutionnalisation de nouvelles normes et du coup, sur, en termes d'entrepreneuriat institutionnel, on pourrait utiliser le mot, le concept d'Eisenstadt pour ça. Et ces mécanismes collectifs d'institutionnalisation de nouvelles normes, de changement de règles, de régulation, eh bien, l'analyse de réseau aide beaucoup à le comprendre. Voilà, donc ces quatre mécanismes ont été observés dans le cabinet d'avocats d'affaires.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, ont servi de base à une théorisation de ce qu'est le capital social du collectif. Et à partir de là, avec mes collègues et avec des doctorants, on a diversifié les terrains et essayé d'observer les mêmes mécanismes collectifs un petit peu partout, en particulier dans des marchés, mais aussi dans des institutions publiques privées et aussi au fil des idées que les doctorants avaient de nouveaux terrains dans des organisations de type plus ou moins compliquées. Voilà, je pense par exemple à Olivier Wattebled qui a fait une étude de réseau des prêtres d'un diocèse.
Oui.
Un diocèse, c'est à la fois un univers très bureaucratique et en même temps un univers très collégial. Et comment ça se combine entre les deux? Eh bien, l'analyse de réseau multiniveau est très utile pour comprendre comment fonctionne cette combinaison de modèles organisationnels, par exemple.
D'accord. Voilà. Oui, parce que vous parlez de terrain, mais il y a une multitude de terrains. Donc là, vous avez cité le cas des réseaux de prêtres, mais je crois qu'il vous avez aussi d'autres réseaux, notamment des réseaux de scientifiques que vous avez, étudiés avec Lise Mounier et Raphaël Stoffer.
Exactement. Là, ce qu'on a étudié, c'est le fonctionnement du milieu de la recherche sur le cancer en 2000. Mmh. Et on a observé des mécanismes d'apprentissage collectif très, très impressionnant.
Pourquoi c'est impressionnant?
Bien, parce que dans la science est un univers très, très concurrentiel. La science de haut niveau, hein, on parle de gens qui approchaient les prix Nobel. Et d'ailleurs, observé dans nos données, c'est la fin d'un système du triomphe de l'hématologie immunologie française qui avait abouti à l'obtention du prix Nobel par Jean Dossier en 1980, je crois. Et nous, 20 ans après, on observe le milieu de la cancérologie encore dominé par cette hématologie immunologie. Mmh. Et bon, 10 ans après, avec l'émergence de la génétique, du séquençage génétique, la recherche sur le cancer est passée à autre chose.
Oui.
Mais dans les réseaux qu'on avait reconstitués, on a observé une forme de discipline sociale entre les chercheurs qui avaient été imposés par Jean Bernard, par Jean Dosset et qui étaient lisibles dans les demandes dans les réseaux de conseils et d'apprentissage collectif qu'on a reconstitués et qui avaient expliqué cette efficacité incroyable de l'hématologie, immunologie. C'était des associés rivaux, c'était des concurrents, mais qui étaient obligés de coopérer et qui étaient parvenus. Donc, ces mécanismes collectifs, on voyait leur réelle performance.
Oui, leur impact, oui.
Leur vrai impact dans un milieu où la recherche compte vraiment beaucoup, parce que la recherche médicale avance quand la biologie avance.
Voilà. Oui, alors, autre terrain aussi, donc, vous l'avez légèrement évoqué, c'est celle des marchés.
Oui.
Hein, aussi, alors là, les marchés financiers.
Beaucoup de doctorants se sont intéressés à ces questions. Élise Penalva, Mohamed Oubnal ont reconstitué des réseaux de financiers dans des secteurs différents. Élise Penalva avait montré comment, avec des analyses de réseaux sociaux, comment le marché, la finance, on va dire, éthiquement responsable, entre guillemets, avait émergé. Et comment elle avait été désolidarisée et neutralisée par des nouveaux acteurs financiers comme les banques qui ont repris la main sur ce marché, qui ont redéfini les critères de ce qui était éthiquement responsable et comment elles avaient fermé un milieu de personnes qui avaient reconstruit les normes et les règles qui permettaient d'évaluer ceux qui étaient responsables, éthiquement responsables, et comment cette clôture était liée à des réseaux d'amitié entre financiers. Donc c'était une très bonne comment dire ça,
démonstration
ouais. de l'utilité de l'analyse des réseaux pour ce phénomène de régulation. Et Mohamed Oubnal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconstitué le marché, la construction du marché des ETF, des trackers, ce qu'on appelle ça, des produits financiers.
Et ETF, qu'est-ce que c'est, trackers?
Trackers, c'est les Exchange Traded Funds. C'est l'asset management qui avait fait venir en France des produits financiers américains qui étaient réputés sans risque et qui ont des encours, mais d'un niveau gigantesque. On parle peut-être de dizaines de trillions de dollars qui sont investis dans ces produits. Et en France, ce que Mohamed Oubnal avait observé, c'est la construction du silence autour de ces produits, des risques associés à ces produits. La construction du silence, les réseaux sociaux et la construction du silence, surtout là où il y a dans des milieux où on exerce des pouvoirs, c'est très puissant comme...
Et ça, on arrive à le repérer, on arrive à les voir.
À voir qui impose le silence aux journalistes pour qu'ils ne parlent pas des risques liés à ces produits financiers. Et voilà, il a reconstitué ce milieu-là et la construction de ce silence-là. Voilà, que d'ailleurs, Olivier Wattebled avait identifié et reconstruit dans l'entre-prêtre, comment les réseaux de presse imposent aux prêtres du silence. Pour ne pas remettre en question la différence et les conflits entre orientations religieuses dans un diocèse, un silence qui par ailleurs est instable et qui s'impose aux prêtres qui ne doivent pas se critiquer mutuellement pour ne pas entamer la réputation et l'image de leur institution. Et quelquefois, ce trop de silence, eh bien, il aboutit à couvrir
des dérives comme les
dérives pédophiles, par exemple. Mm-hmm. Donc, un silence structural. En fait, l'analyse de réseau montre que plus on monte dans la hiérarchie des pouvoirs, plus on se tait, plus on oblige les autres à se taire. Les rapports entre réseau et silence sont très intéressants. Mm-hmm. Et puis, il y avait encore, il ne faut pas que j'oublie de mentionner les réseaux de VRP, de représentants de commerce qui ont été étudiés par Julien Brailly et Guillaume Favre et qui ont montré comment ces réseaux aident les petites entreprises à résister, à survivre dans des marchés dominés par des énormes
des entreprises
boîtes qui ont des stratégies de terre brûlée et qui menacent de tuer une production très créative et très innovante. Mais qui arrive à se maintenir grâce à des formes de réciprocité entre représentants de commerce, d'un salon à l'autre, d'une année sur l'autre, des formes de réciprocité qui sont par ailleurs considérées par Bruxelles comme illégales, comme anticoncurrentielles. La sociologie économique a beaucoup bénéficié de cette conception du capital social dans les marchés.
Alors, vous avez aussi travaillé sur les rapports entre le public et le privé. Je voudrais bien qu'on en parle un peu. Comment est-ce que vos travaux s'inscrivent un petit peu dans cette perspective ?
Alors, oui, les institutions publiques-privées, il y en a de plus en plus, s'appuient sur les mécanismes de régulation et d'institutionnalisation de nouvelles normes. On a observé ça dans deux tribunaux en particulier. Le fonctionnement du tribunal de commerce de Paris, qui est un tribunal public-privé, même s'il est judiciaire, les juges sont des hommes et des femmes d'affaires au tribunal de commerce consulaire français. Et le fonctionnement des mécanismes de création de nouvelles normes, de production de nouvelles normes, a été intéressant à observer entre eux. Parce qu'il s'agit d'une forme de régulation de l'économie de marché. Donc là, il y a Il y a beaucoup de mécanismes à l'œuvre, d'apprentissage, de lobbying combiné, de domination du tribunal par certains secteurs de l'économie, comme la finance, qui arrive à imposer ses propres normes de non-interventionnisme dans les conseils d'administration, de non-punitivité dans les marchés. Ces mécanismes-là de fonctionnement du public-privé sont intéressants à observer dans ces institutions-là, comme par ailleurs une nouvelle institution que nous observons en ce moment, qui est l'émergence d'une juridiction unifiée à l'échelle européenne, un tribunal public-privé qui est en train de redéfinir le régime de la propriété intellectuelle en Europe, dans le domaine des brevets, de l'innovation dans la technologie. Et là encore, les avocats d'affaires, les juges publics, n'est-ce
public,
pas,
ouais, c'est ça.
Construisent une juridiction qui va échapper au contrôle pour la plupart de ces décisions, au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, et construire un tribunal que les grandes entreprises appellent la Cour des grands.
Ah.
Parce que ce tribunal va, avec le temps, construire un régime de la propriété intellectuelle que les politiques avaient échoué à construire, parce que les systèmes nationaux d'innovation sont trop différents, les capitalismes européens sont trop différents pour que les gouvernements eux-mêmes aient pu en fait s'entendre sur des règles. Et ces règles ont été construites par le privé, par le monde de l'entreprise, du privé. Et ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes de déficit démocratique, parce que ces règles, eh bien, elles sont même pas votées par le Parlement européen, n'est-ce pas ? Et cette façon de construire des institutions à l'écart du droit public pose problème. Ces mécanismes d'institutionnalisation-là, ce sont aussi des mécanismes qui s'appuient sur des réseaux sociaux, des réseaux à l'échelle interorganisationnelle, donc des réseaux multiniveaux. Et la mise en lumière de leur fonctionnement transnational, multiniveaux et structural, basé sur des réseaux, est importante aujourd'hui.
Mmh. Alors, je vais vous poser une dernière question, en fait, une question que je pose à chacun de mes invités. Selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans notre société ?
Alors, je dirais que de ma fenêtre, ce que je vois, c'est un processus qui est en train de se mettre en place, qui est la privatisation de la sociologie. Je pense que ça représente un danger certain pour l'avenir de la sociologie aujourd'hui, qui s'est construite en tant que sociologie publique, dont l'enseignement et la recherche est académique, et qui a du mal aujourd'hui, je crois, à comprendre comment une sociologie privée est en train de se construire et de distancier la sociologie privée. Cette sociologie privée, c'est une sociologie qui est construite par les gens qui ont des bases les grandes plateformes qu'on appelle GAFAM.
C'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM.
Et Airbnb, ces grandes plateformes qui possèdent des données de réseau sur le capital social des collectifs, pas sur le capital relationnel des individus, ça on le sait tous, on est tous transparents pour ces plateformes, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont aussi conscientes de la capacité de l'analyse de réseau à comprendre le fonctionnement des institutions. Donc les institutions deviennent de plus en plus transparentes pour ces plateformes, et grâce à ces données, aux données sur les carrières des individus, sur leurs choix normatifs, sur leurs performances, sur leur vie économique, eh bien, ces plateformes peuvent analyser à une échelle qui est nouvelle, qui n'est pas l'échelle à laquelle nous avons travaillé sur le capital social et le capital relationnel des individus, peuvent comprendre le fonctionnement de la société d'une manière qui est menaçante pour la démocratie, parce qu'il constitue de plus en plus une forme de pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir pour l'instant, qui n'est pas vraiment régulé.
Vous soulignez, Ces plateformes disposent d'énormes données,
oui.
mais auxquelles
de ces données, nous, on n'a pas accès.
C'est ça.
Les compétences qu'il faut sont très peu distribuées en Europe. Et du coup, il est très important, il me semble-t-il, pour que le service public de la sociologie, en quelque sorte, ne se laisse pas distancier de travailler avec ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles et pour continuer à échanger avec ces sociologies privées pour qu'elles ne deviennent pas uniquement une technologie de contrôle social, d'ingénierie sociale qui utilise la sociologie d'une manière qui échappe à la sociologie publique. N'est-ce pas ? Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de publier, c'est de contrôler. Et du coup, c'est important de voir se développer cette sociologie privée et de ne pas la laisser prendre le dessus.
Mmh. D'accord, très bien.
Cette connaissance des mécanismes va être, mécanismes collectifs, va être importante pour la résilience sociale face aux grandes crises qu'on connaît déjà et qui s'annoncent aujourd'hui. Et le contrôle social sur la responsabilité collective, sur la compréhension de ces crises, eh bien, il ne faut pas laisser la connaissance de ce de ces mécanismes à la sociologie privée. Ça, c'est vraiment un objet de débat public, ça doit rester un objet de connaissances communes.
D'accord. Merci Emmanuel. C'était le podcast Objet trouvé du CSO. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites-le savoir autour de vous. Science Po.